吗？
Silence, s'il vous plaît, dans la bibliothèque.
Lire, c'est queer, avec Brian Saint-Louis.
Salut Brian, ça va bien?
Oui, ça va bien. Toi?
Bon, oui, ça va très bien, oui, ça va très bien. On est rendu à la chronique Lire, c'est queer. Et aujourd'hui, on a deux sujets à proposer. Camouflé dans la chair de Mathieu Leroux, c'est publié chez Héliotrope.
Oui, c'est le nouveau roman de Mathieu Leroux dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est sorti cet automne. Je n'avais pas encore eu le temps de le lire, de le mettre dans ma pile. J'ai fini par le faire. Une lecture très intéressante, je dois dire. Mathieu Leroux, vous vous en souvenez peut-être, je vous en ai déjà parlé à l'émission. Ce n'est pas son premier roman. Il avait fait Dans la cage en 2013. Il avait fait aussi avec un poignard qui avait aussi paru chez Héliotrope en 2020.
Oui.
Un auteur dont la plume est toujours très... il va loin, il beaucoup d'honnêteté, beaucoup de... quelque chose de toujours très cru comme écriture.
Oui, c'est acéré, j'allais dire, comme plume, hein? Oui.
Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est tanné que je le présente comme ça, parce que ce n'est pas la première fois que je parle de ses livres dans les médias. Et puis, il y a quand même un côté très cru, très réel, très... il ne s'en fâche pas avec la dentelle, Martin Leroux. Donc, il va vraiment... Donc, c'est peut-être pas un livre qui est très grand public, mais ça reste quelque chose de littérairement et de propos très intéressant. Camouflé dans la chair, celui-là, il est un peu différent des autres, justement, où on était souvent dans des univers un peu glauques, très noirs. Celui-là, il nous raconte, c'est un roman, premièrement, en deux temps. Dans la première partie, il va nous raconter un événement qui lui est arrivé. C'est toujours écrit, par contre, à la troisième personne. On ne sait pas que ça parle, qu'on parle de lui. Mais j'ai lu des entrevues, il confirmait que c'était quelque chose qui lui est arrivé. Le narrateur arrive à l'hôpital parce que il était chez lui, ses jambes ont cessé de fonctionner. Et il a appelé un ami, apportez-moi à l'hôpital, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il rentre au triage et il ne sortira jamais de l'hôpital pour la prochaine année et demie qui va suivre. Le narrateur qui va souffrir d'un syndrome qu'on nomme jamais, mais qui est le syndrome de Guillain-Barré. Donc, c'est une maladie qui attaque votre système immunitaire, le système nerveux, et ça monte à partir des jambes jusqu'à, dans les cas les plus graves, et c'est ce qui arrive au narrateur dans l'histoire, être complètement incapable de bouger quoi que ce soit de son corps. Donc, il va nous raconter cette année et demie-là où il est aux soins intensifs à l'hôpital, où il a complètement perdu contrôle de tout son corps. Il ne peut plus rien bouger, si ce n'est qu'une paupière. Et tout le reste, alors que dans sa tête, il est toujours là, il a conscience de tout, mais son corps, lui, ne répond absolument pas. Donc, c'est l'histoire de cette année-là, à l'hôpital, aux soins intensifs, donc ses relations avec ses amis qui continuent de le voir, sa famille, sa relation avec son corps, sa détresse interne, sa santé mentale à lui, parce que son corps ne répond plus, le temps s'égrène tranquillement. Il ne sait pas s'il va s'en sortir, il ne sait pas si ça va s'améliorer, il y a des crises de panique, il y a absolument tout. Donc, dans cette première partie-là, on est vraiment dans la perte complète du corps. C'est, même s'il ne se passe absolument rien, finalement, l'auteur reste assis dans sa chaise, il ne bouge pas. Il y a quand même un rythme, il y a quelque chose de fascinant dans cette partie-là qui est complètement... qui est angoissante parce qu'on est prisonnier avec lui de son corps. C'est vraiment... fascinant. Deuxième partie, là, on reprend complètement possession de notre corps. Le même personnage, après avoir être sorti des soins intensifs, est en voyage à Amsterdam, choisit de quitter ses amis pour une soirée et décide d'aller dans un sauna. Et là, il va nous raconter la soirée qu'il passe là-bas, dans cet univers. Et là, on retrouve le Mathieu Leroux, peut-être plus sexuel, peut-être plus direct, frontal. Il va nous raconter cette soirée où tout à coup, ben là, il reprend, c'est ça, complètement contrôle de son corps et il en profite. Il va multiplier les rencontres, il va se promener dans ce sauna d'Amsterdam où il va rencontrer des gens, il va voir des scènes, il va assister à des choses, il va participer à des choses, il va faire des choses. C'est une recollection complète avec son corps. Ça a l'air, évidemment, là, c'est très cru, cette partie-là. On décrit des actes, on parle de c'est plus sexuel, mais il y a quand même des moments de temps... plus tendre, des moments plus vivants, plus sentis. On sent qu'il analyse quand même les relations qu'il a. C'est là qu'on se rend compte aussi que des saunas, c'est pas seulement, en tout cas pour lui, c'est pas seulement un lieu de rencontre sexuelle, c'est aussi un lieu de rencontre sociale. Il y a des individus qui sont là. C'est des rencontres d'un soir qui vont laisser des marques, qui n'en laisseront pas, des souvenirs, d'autres qu'on va oublier plus rapidement. Mais il y a des moments quand même dans ce passage-là complètement différent où ils se promènent. Et ça aussi, c'est une partie très intéressante. Donc, deux parties de roman complètement différentes, mais que mis ensemble, on comprend quand même pourquoi il l'a fait. Parce que justement, c'est de un, la perte complète du corps, de deux, une perte aussi complète du corps, mais dans un autre sens complètement. Donc, un roman qui nous amène dans deux univers, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Une plume qui continue de maturer, de bien vieillir. Mathieu Leroux, on s'habitue à son style, on le comprend de mieux en mieux. Donc, à découvrir, c'était publié l'automne passé chez Héliotrope, comme tu as mentionné en début de chronique.
Bon, alors le prochain titre, c'est 4% en théorie. Alors moi, j'ai fait une blague en début d'émission parce que quand on donne ton 4%, c'est parce qu'on te met à la porte. Mais bon, c'est peut-être pas de ça qu'on parle à ce moment-ci. Alors voici Mathias Chaillot, donc, qui a été publié aux éditions Goutte d'Or.
Oui, 4%, ben justement, tu disais 4%, je vous donne votre 4%, non, non, restez avec nous. Ce n'est pas le chiffre auquel on pense habituellement quand on nous dit le pourcentage de la population qui peut être gay, qui peut être membre de la communauté LGBT, mais c'est pourtant ça qu'il dit en couverture de son livre, donc 4% en théorie. Mathias Chaillot, qui est un journaliste de 37 ans français, journaliste indépendant, photographe. Il a participé à différents médias en France, un peu du journaliste gonzo, là, donc on fait des infiltrations, on se promène partout. Et lui, cet essai, revient sur une question qui le turlupine depuis longtemps. Il se demande pourquoi on est gay? Donc, c'est une question qu'on peut avoir eue dans notre vie, à se demander mais pourquoi on l'est, pourquoi on ne l'est pas, comment on le devient? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? On part un peu de cette question-là et lui, il se met à creuser. Donc là, on va se promener dans ce livre-là, dans toutes sortes de théories, toutes sortes de vérifications. On va aller dans vraiment de la science plus dure, là. Est-ce que c'est une zone du cerveau qui est concernée? Est-ce que c'est des hormones qui vont être relâchées par notre mère pendant qu'elle est enceinte, puis qui va créer, entre guillemets, l'homosexualité chez son enfant. On va aller dans les sciences un peu plus molles aussi, psychologie, on va parler de Freud, on est dans la sociologie, on va comparer comment ça se passe dans d'autres sociétés. Donc, on vérifie un peu si nous, on a créé on vient sur les concepts aussi d'hétérosexualité, d'homosexualité, est-ce que ça existe vraiment? C'est l'Occident qui a beaucoup mis ça de l'avant quand on compare, par exemple, les B-spirits chez les Autochtones qu'on retrouve, par exemple. Il parle aussi d'un troisième siècle qui existe aux îles Samoa, des Faafines, ça s'appelle, c'est comme une partie de la population qui a un rôle très précis dans la société. C'est des hommes, justement, plus efféminés, mais qui deviennent des mononcles, qui vont s'occuper des enfants, leur apprendre des choses. Donc, on se promène un peu dans cette sociologie-là. On se continue, on s'en va aussi dans la zoologie. On va parler d'homosexualité chez les animaux. On va parler d'histoire, des moments où l'homosexualité était plus ou moins acceptée. Et là, on continue aussi sur la construction sociale, l'homosexualité. Au final, on se promène beaucoup dans ce livre-là. Est-ce qu'on répond à la question? Ben, pas tant, mais on ouvre beaucoup, beaucoup de portes et on parle. On n'a pas beaucoup de réponses, mais on ouvre des portes pour savoir qu'est-ce que ça pourrait être justement, là. Donc, on se promène dans les différentes théories, les différentes choses qui ont été analysées. Conclusion très scientifique, souvent, on a des corrélations qui existent, mais pas vraiment de vraies preuves que ce serait ça ou ça ou ça qui explique comment on devient homosexuel. Une chose qui fait bien aussi dans le livre, c'est de nous faire poser justement ces questions-là, de considérer plusieurs angles. Mais il nous fait aussi remarquer que si on trouvait un gène sur l'homosexualité, par exemple, si on trouvait une action précise qui fait qu'on devient gay, ben à ce moment-là, ça pourrait être dangereux parce qu'il y a beaucoup de groupes conservateurs qui s'intéressent à ça en se disant, ah ben si on peut préciser de quelle façon on devient gay, c'est que c'est une façon dont on pourrait guérir l'homosexualité finalement. Et quand je vous disais aussi qu'on parlait d'histoire, on parle d'expériences qu'il y a eu dans le passé, justement, pour tenter de guérir l'homosexualité. Ça va dans la lobotomie, des électrochocs, de la castration chimique. On fait l'histoire un peu de tout ça dans ce livre-là pour chercher à comprendre si on est ou si on acquiert l'homosexualité finalement. Donc, c'est un livre qui est beaucoup en survol. On ne veut pas nous assommer peut-être avec des grosses conclusions scientifiques un peu plus poussées. On va rapidement d'un sujet à l'autre, on mélange des recherches. Lui aussi, il parle, mais il se met beaucoup il prend beaucoup de place dans son écriture, il raconte des anecdotes, des choses qui lui sont arrivées. On en aurait peut-être pris plus parfois, des fois. Je disais au début de la chronique qu'il était un journaliste gonzo qui a fait des infiltrations. Entre autres, lui, il est allé en Pologne. Il a infiltré une thérapie de conversion en Pologne dans un groupe catholique. Il va quand même assez rapidement sur ce sujet-là. On en aurait pris un peu plus pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils font. Mais donc, c'est une lecture sympathique, mêlée d'anecdotes. Comme je le disais, là, c'est un beau tour d'horizon, mais peut-être qu'il ne faut pas le considérer comme étant excessivement exhaustif, malgré une bibliographie là, très généreuse à la fin. On voit qu'il a quand même fait ses recherches. Mais c'est ça, c'est que c'est une question au final. On n'arrive pas vraiment à élucider comment on devient gay. C'est ce qu'on comprend quand même assez rapidement dans la lecture de ce livre-là.
En fait, c'est toujours une drôle de question, comment on devient gay. T'sais, moi, j'ai toujours dit aux gens, je suis venu au monde comme ça, mais on n'a jamais trouvé de gène. En fait, il y a beaucoup de recherches qui se font, mais on n'a jamais trouvé de gène. Puis c'est vrai qu'à la longue, on se dit, ça serait peut-être la nouvelle thérapie de conversion si on pouvait trouver le gène qui cause l'homosexualité, n'est-ce pas?
Ben, c'est ça. Puis, mais justement, cette question-là, il dit, ben, moi, il parle à ses amis tout le long en leur disant, je me questionne là-dessus. Puis tout le monde a dit, ben, voyons, pourquoi? Puis, tu sais, on voit qu'il y en a que ça intéresse comme sujet, d'autres que pour qui c'est pas une question importante. Donc, dépendamment d'où on se place, mais reste que la question peut se poser, pourquoi on devient? Puis, il va donner des exemples, par exemple, de famille, des frères, des jumeaux, par exemple, des jumeaux identiques. Pourquoi parfois les deux, s'ils partagent le même bagage, la même famille, les mêmes gènes, pourquoi il y a parfois des jumeaux identiques qui ne sont pas gays tous les deux, alors que parfois, des fois, ils le sont? C'est un ensemble de facteurs. C'est ce qu'on va comprendre au final. Mais oui, c'est le côté un peu plus noir là, qui peut être angoissant dans ce livre-là, justement, de comprendre que si on ciblait trop, oui, puis certains pourraient en tirer avantage, pas nécessairement de la bonne façon, justement, là.
Ben, Brian Saint-Louis, c'est toujours intéressant. On se reparle le mois prochain.
Oui, à la prochaine.